tous, je suis très heureux de vous retrouver. C'est un peu une année particulière, hein. Les 10 années des journées de l'économie. J'espère qu'il y a quelques fidèles qui étaient là au début, peut-être avec le vieux sac journée de l'économie. Oui, ce serait une très bonne nouvelle. Bon, je pense qu'en même temps, c'est une très belle opportunité pour nous de revenir sur les 10 ans et les grandes mutations qu'on a vécues pour s'interroger sur ce qui va se produire, sur les stratégies qui sont mises en œuvre dans les 10 ans à venir. Souvent, on veut nous faire peur, on nous montre les côtés inquiétants, mais il y a aussi une foule d'opportunités. Et je trouve que dans les journées de l'économie, il faut qu'on vous montre les deux. Le fait qu'il y a un certain nombre de risques, de dangers, mais qu'il y a beaucoup d'opportunités. Comme dit Mohamed Younous, après tout, ce sont les hommes qui ont créé les problèmes. Pourquoi ils ne seraient pas capables de les résoudre? Je pense que c'est en fait une phrase qui devrait nous inspirer pendant ces 3 jours. Et on va démarrer très très vite, puisqu'on a juste une heure, avec un micro-trottoir qui va nous permettre de réagir chacun aux questions qu'on a posées aux Français.
La crise économique d'il y a 10 ans, c'est l'événement économique le plus important, pas seulement de ces 10 dernières années, mais des décennies. Donc c'est assez dramatique.
Et l'augmentation des impôts et des taxes.
L'élection de Trump.
On parlerait peut-être la crise notamment qui concerne l'immobilier et la difficulté quand on habite à Paris d'accéder à un logement, quelle que soit sa situation, aussi bien pour les jeunes étudiants, mais aussi les jeunes familles. Alors moi, je dirais plutôt ma manière de consommer et de voir les choses. Justement, si on prend ce mouvement qui est lié à l'entrepreneuriat social et à l'économie sociale et solidaire, j'attache beaucoup plus d'importance à ma manière de consommer.
Ce qui a changé pour moi dans ma vie quotidienne, c'est l'instauration du statut d'auto-entrepreneur, qui a complètement modifié mon rapport au travail.
Surtout arrêter ces flux de circulation qui polluent terriblement et qui nous fait mourir à petit feu.
Ça va te réinsuffler des vies de quartier, réinsuffler du dialogue, même dans des quartiers qui a priori où ça ne dialogue pas du tout.
Je pense qu'en France on a vraiment un problème d'espace vert dans les villes, ça manque énormément par rapport aux autres pays et je pense que ce serait vraiment quelque chose de beaucoup plus agréable si on avait des énormes espaces verts comme on peut trouver à Berlin ou à Londres.
Les transports, les transports.
Mais on a aussi une mutation à faire socialement, parce que passer du véhicule individuel au transport collectif, c'est un sacré chemin. Hein. C'est perdre une liberté individuelle pour retrouver en fait une meilleure qualité de vie individuelle et collective.
Il faudrait prendre exemple sur le modèle américain. C'est beaucoup plus axé sur l'humain, beaucoup plus axé sur le relationnel. On le voit avec des grands espaces où on a des tables de ping-pong, où on a des espaces de détente.
C'est de considérer que la croissance ne peut pas être si elle ne profite pas aux populations.
Sur l'équipe, sur l'écoute, mais réelle. Pas forcément se faire un paintball avec son équipe de travail. Ça rime à rien, ça, s'il n'y a pas un fond derrière.
En développant les outils de travail à distance, si on pouvait réussir à travailler plus rapidement depuis chez soi ou depuis un lieu proche de chez soi, on améliorerait fortement le quotidien de beaucoup, beaucoup de personnes.
Libérer l'initiative au maximum, de façon à justement accompagner ce mouvement qui, à mon avis, est irréversible d'initiative individuelle et collective.
Ce que je ferais, c'est vraiment, préserverais un budget pour les étudiants parce que c'est super compliqué de se concentrer à l'école et travailler pour financer ses études, sachant que les études, c'est primordial et arriver à un certain niveau, l'école, ça devient très, très, très cher.
Ouais, moi, je couperais drastiquement dans le budget de fonctionnement de l'État. Je pense qu'on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'économies.
Essayer de bloquer les circuits qui financent le terrorisme et le blanchiment d'argent.
Je pense que pour la France, ça ne va pas changer grand-chose. Peut-être plus de rapatriement des Français qui sont à Londres, qui vont revenir chez nous. Oui. Plus de main-d'œuvre en France, de cerveau.
Le Brexit, pour moi, c'est lose-lose. Il n'y aura personne qui va en bénéficier. Donc pour moi, on est maintenant dans la gestion de dommages. Ça a quand même lancé un grand débat, une réflexion sur ce que c'est être citoyen européen, à quoi ça sert.
Écoutez, je ne sais pas, parce que moi je trouve que de toute façon ils avaient déjà énormément d'avantages et qu'ils n'étaient déjà pas très dedans.
Et donc pour moi, la création d'emplois, c'est faire en sorte que cette croissance économique arrive aussi hors des grandes villes, hors de la classe moyenne, et qu'elle soit plus inclusive.
Vraiment peut-être devenir l'un des plus gros pays qui pousse les startups, parce que bon, bah, la plupart des gens actuellement, ils s'exilent à l'étranger pour lancer leur startup, et qui dit startup dit forcément création d'emplois.
Convaincu qu'en baissant la durée du travail, en augmentant les salaires, voilà, ça c'est une mesure économique pour relancer la consommation.
Écoutez, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous pourriez faire les journées de l'économie avec tous les sujets que vous avez abordés. Vous n'avez peut-être pas besoin de nous. Je vais proposer en 2 minutes à chacun de réagir au moins peut-être à une ou deux des questions qui ont été évoquées. Et je voudrais commencer par Sylvie Goulard, qui m'a fait l'honneur d'accepter cette année d'être notre grand témoin. Moi, j'en suis extrêmement heureux. Je pense qu'en plus, les questions européennes vont beaucoup nous occuper pendant ces journées de l'économie. Et c'est un sujet sur lequel, je pense, pas mal d'entre vous vous interrogez sur la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, Sylvie Goulard, est-ce qu'il y a une ou deux questions et remarques là des Français qui vous poussent à réagir ?
Bien, d'abord, bonjour à tous. Merci d'être là aussi nombreux et merci de m'avoir fait cette confiance et cet honneur. Moi, j'ai l'impression vraiment, quand on entend des témoignages recueillis dans la rue, je ne sais pas quelle a été votre méthode, mais je suis un témoin parmi d'autres. En France, on aime bien toujours mettre l'adjectif « grand ». Dans les autres pays, ils se moquent un peu de nous, d'ailleurs, avec ça. Donc, je dirais que je suis un témoin. Non, ce qui m'a frappé, c'est que, d'abord, je trouve qu'il y a une vraie ouverture internationale. Plusieurs des personnes qui ont spontanément répondu sont comparées avec les États-Unis, ont parlé. Enfin, je trouve que c'est pas mal. Ça prouve que, même si la préoccupation première, on le sent bien, est une préoccupation d'amélioration de la vie, que ce soit sur les transports, que ce soit pour financer ses études, que ce soit pour avoir un travail. Mais je suis pas surprise, parce que je pense que les Français sont des gens assez ouverts dans l'ensemble. C'est bien, je trouve, qu'un petit micro-trottoir comme ça montre que l'économie, c'est à la fois des questions qui touchent les personnes et où il y a une demande de prise en considération de la personne humaine, des conditions de vie et de travail, mais aussi qu'on s'insère dans un ensemble plus vaste.
Quand je regarde le questionnaire, on a quand même beaucoup interrogé des urbains. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je pensais à David Kemmelfeld, donc le président de la métropole de Lyon. Toutes ces réponses d'urbains, qu'est-ce que ça vous inspire ?
D'abord bonjour à toutes et à tous. Peut-être Pascal, avant de répondre à la question, comment on va le faire plusieurs fois dans la journée ou dans les journées de l'économie, je voulais d'abord te remercier parce qu'il y a 10 ans, quand on discutait des journées de l'économie, on s'interrogeait un peu sur le succès de celle-ci. Aujourd'hui, on ne s'interroge plus parce que je crois qu'on est passé de 3 500 à 40 000 participants et je voulais t'en remercier. Dire simplement moi, ce qui m'a frappé dans les petites questions et dans le micro-trottoir, c'est, on en parlait tout à l'heure avec Sylvie Goulard, on sent bien l'expertise des citoyens, en fait. Et on voit dans les sujets qu'ils abordent que ça embrasse l'ensemble des sujets, d'abord de ces journées de l'économie, et ça embrasse les préoccupations, en l'occurrence, de la métropole, mais pas seulement de la métropole. Alors, ça a parlé innovation sociale, ça a parlé comment est-ce qu'on peut entreprendre autrement, comment le nouveau rapport, les nouveaux rapports au travail, la question de la qualité de l'air, de la nature en ville. Moi, j'ai noté les questions sur la redistribution sur les autres territoires, c'était très urbain, et quelqu'un nous dit, mais attention, il faut faire aussi des choses sur les territoires qui ne sont pas dans les métropoles. C'est aussi des questions que nous allons aborder pendant ces journées de l'économie. Donc, je trouve que c'est un résumé d'une expertise citoyenne et qui, d'ailleurs, est en lien fort avec les journées de l'économie, parce que s'il y a beaucoup de participants aux journées de l'économie, c'est pas simplement des participants et des participantes qui viennent assister à des conférences, c'est des participants et des participantes qui veulent être acteurs et actrices de l'économie aujourd'hui, de l'économie réelle, et je crois que c'est ce qui fait la force des journées de l'économie et c'est ce qui fait la force de nos rencontres dans les 3 jours qui viennent.
Merci David. Je pense que la réflexion de David me fait penser à une chose. J'étais assez indigné au début quand j'avais voulu lancer les journées de l'économie où on me disait les Français sont nuls en économie. Il y avait des sondages autour de cette question et je trouvais que c'était une approche qui n'était pas du tout pertinente. pense qu'il y avait à la fois de l'agacement et de la curiosité, que les deux se mélangeaient et qu'on en avait déduit que les Français étaient nuls en économie, qu'ils étaient contre les réformes, etc. Je pense qu'en 10 ans, vous avez plutôt montré que vous étiez extrêmement curieux et qu'il fallait qu'on soit plutôt au niveau que vous attendiez pour pouvoir faire quelque chose. Je vais continuer dans les questions avec Didier Bruno, qui est membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Est-ce que dans ce micro-trottoir, vous avez un certain nombre de réflexions qui vous inspirent ?
Ben moi, ce qui m'inspire dans ce micro-trottoir, c'est que les gens ont des solutions. Alors, c'est des solutions qui sont individuelles, qui sont plurielles. Mais je suis très, très agréablement surpris de voir qu'on a des solutions pour meilleur fonctionnement au travail, on a des solutions pour la transition écologique. Ça, je crois que c'est important et c'est ce qu'on vit dans les entreprises aujourd'hui. Si on ne donne pas la parole, j'allais dire, aux salariés, on aura du mal à bâtir une stratégie, on aura du mal à trouver du sens. Donc ça, je crois que c'est important. J'ai été un petit peu étonné aussi qu'on ne parle pas du tout du numérique, la transformation numérique, comme quoi peut-être qu'elle est dans les mœurs maintenant. La mondialisation, visiblement, n'est plus une préoccupation. Et puis, je crois que c'est la première personne qui parlait de la notion de confiance, de la crise financière. Je crois qu'on est quand même toujours sur, j'allais dire, la suite de cette crise financière et des dégâts que ça a fait en termes de confiance. Hein. Et moi qui travaille dans le secteur bancaire, je sais qu'on a été aux premières loges hein, dans cette rupture de la confiance. C'est un défi de tous les jours de restaurer la confiance. Voilà, donc je trouve que les gens ont des solutions et des solutions qui sont pragmatiques, individuelles et tout à fait réalistes.
Merci, Didier Bruno. Alors, évidemment, Annabelle André-Laurent, qui est vice-présidente déléguée aux entreprises, à l'emploi, au développement économique, au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales. Je suis extrêmement impressionné. C'est un titre d'une longueur très française. Donc, en tout cas, vice-présidente ici à la région. Je ne vous ferai pas l'injure de vous demander ce que vous pensez du micro-trottoir. Mais quand on regarde, on a l'impression que sur beaucoup de sujets, en effet, les analyses ont évolué. Mais je plaisantais un peu en disant qu'on avait beaucoup d'urbains et que les territoires, c'est aussi un peu la difficulté ici à recréer de la cohésion. Et peut-être que c'est un des sujets pour vous qui a une importance particulière à la région.
Alors bonjour à tous, déjà excusez-moi pour le retard, je suis désolée. Alors non, j'ai pas vu le micro-trottoir, mais bien évidemment nous sommes une région et vous avez cité dans le titre un peu pompeux et très complet, en fait nous sommes une région très équilibrée en termes d'économie. Et je pense que chaque élément de la délégation est une partie prenante et essentielle du développement économique de notre région, très équilibrée, avec beaucoup de TPE et de PME qui maillent notre territoire. Alors nous avons des métropoles et des grandes villes, mais on a des territoires aussi ruraux, essentiels au développement économique. Et bien évidemment, on travaille à la cohésion de notre territoire et à l'équilibre de notre territoire. C'est indispensable. Et on a aussi des petites pépites en termes de développement économique dans nos territoires, un peu éloignés des villes centrales de notre région, mais qu'on ne peut pas oublier, parce que ce sont des vrais créateurs d'emplois, des vrais investisseurs, et ils sont indispensables.
Merci. Je pense que cette question des territoires en économie est particulièrement importante. Les économistes, pendant très longtemps, ont ignoré les territoires, un peu comme ils ignoraient toutes les hétérogénéités qui pouvaient exister. Et vous verrez que là, dans les journées de l'économie, cette année, il y a énormément de sujets sur ces territoires. C'est un véritable débat important. Qu'est-ce qui fait la cohésion d'un territoire ? Je pense que là-dessus, on doit apporter un certain nombre d'analyses. Je me tourne vers Marc-Olivier Strauss-Kahn, le conseiller personnel du gouverneur de la Banque de France. Encore à des titres bien français, ça va faire rire Sylvie Goulard. On va enchaîner avec le sondage, hein, le sondage sur les Français et l'économie, où je pense qu'on voit aussi là un portrait qui évolue au fil du temps. Je te laisse la parole.
D'abord bonjour, c'est un plaisir d'être à nouveau ici au GECO et d'illustrer le soutien de la Banque de France à cette superbe manifestation. Comme en 2016, on a vu que le micro-trottoir complète ou colore, avec du vécu, du quotidien, les réponses un peu plus traditionnelles que le sondage va donner. Ça le complète au sens où, par exemple, beaucoup de questions ont été posées et je me demande si ce seront autant d'actions prioritaires qui vont être demandées au ministre des Finances qui viendra clôturer les journées du GECO jeudi. Ça le colore aussi, vous avez vu cette question sur l'immobilier, le logement, on a justement a ajouté une question sur le logement dans le sondage cette année. Et il y aura une conférence jeudi également avec un participant de la Banque de France sur ce sujet. Parce que le sondage, vous allez le voir, va nourrir au fur et à mesure beaucoup des conférences que je citerai ici ou là quand j'en aurai le temps. Alors on va démarrer tout de suite avec son schéma. Vous verrez d'ailleurs qu'il y a quand même un petit peu d'électronique et de e-commerce, puisque la question avait été posée, qui ont été ajoutées dans le sondage, et que la mondialisation, qui est moins prégnante que les années précédentes, est un élément qui apparaît néanmoins. Alors, je vais démarrer. Les premières diapos auraient consisté à vous rappeler de quoi on parle, qui on a questionné à peu près mi-octobre. Donc, le rappel de la méthodologie, vous l'avez. Moi, je suis trop loin pour voir quoi que ce soit. Mais vous, j'espère que vous voyez. On va passer à la diapo suivante, qui vous annonce le premier thème. Comme toujours, l'intérêt des Français pour l'économie. Et la question qu'on pose traditionnellement, est-ce que vous vous intéressez à l'économie? Et là, on a plus de la moitié des Français qui déclarent s'intéresser et près de 2 sur 10 qui s'y intéressent beaucoup. Et si on appuie encore une fois, on va voir que cela va un peu caricaturalement et on va retrouver ça distingué parfois parmi ceux qui s'intéressent le plus à l'économie, des hommes de plus de 50 ans, diplômés du supérieur. Ne me regardez pas particulièrement, c'est pas moi qui ai répondu à la question, mais c'est un peu une caricature de la France qu'on retrouve ici et que d'autres sondages de l'OCDE montrent avec une moindre appétence, une moindre connaissance dans les catégories socioprofessionnelles, les jeunes ou les femmes. On va passer à la diapo suivante. Voilà, qui montre qu'il y a une progression par rapport aux années précédentes de cet intérêt pour l'économie. La suivante va maintenant nous donner, comme traditionnellement, la question de la connaissance des Français. Ils ne se considèrent pas comme nuls. Vous voyez que, et on peut cliquer de nouveau, ils sont moins d'un tiers à considérer que eux-mêmes, ou les Français, c'est assez proche comme réponse, ont des connaissances très faibles, et il y en a 17% qui considèrent qu'ils ont des connaissances élevées ou assez élevées, et ça c'est en progression, c'est un bon signe, on retrouve un tout petit peu dans la diversité des sexes, la diversité des catégories socioprofessionnelles ou des études, ce que j'avais évoqué tout à l'heure. On va passer à la suivante encore, et là c'est quel besoin d'information les Français demandent-ils en matière économique? Non pas qu'il n'y en ait pas assez, mais où ils en veulent plus. Et apparaissent très fortement l'emploi et la situation de l'État et des finances publiques. L'emploi fait une forte remontée, vous le voyez, on va cliquer à nouveau, poussé par les catégories socioprofessionnelles moins avantagées. Si on ajoute en fait la réponse sur l'État et les finances, qui fait de loin 36%, et celle sur la protection sociale et son financement, on voit que la sphère État représente à elle seule, si on divise par deux, à peu près un tiers des réponses, ce qui est beaucoup. Chacun pouvait répondre deux fois. C'est pour ça que le total ferait 200%. On va passer à maintenant un commentaire par Pascal.
Je vais solliciter ici peut-être Didier Bruno en premier, parce que souvent on a dit qu'il fallait faire la pédagogie de l'économie. Il me semble que les institutions financières ont souvent été sollicitées. Je pense que la crise de 2008 est passée par là pour vous solliciter peut-être en premier. Donc quand je regardais les réponses au sondage que tu as réussi à faire passer avec une forme d'artisanat que j'admire, comme quoi on n'a plus besoin de petites zapettes maintenant. je voulais demander à Didier Bruno, on voit qu'il y a un intérêt quand même des Français pour les questions économiques qui augmentent dans les périodes électorales. Il semble que les années d'élection, ces sujets sont très présents et que leur intérêt augmente. Mais en même temps, j'ai eu l'impression que ça, quand il y a des choses discriminantes, on s'aperçoit que ce sont les hommes de plus de 50 ans qui répondent positivement aux questions posées. Et donc, peut-être qu'il y a des clivages quand même selon les sexes et selon les âges qui restent assez marqués par rapport à l'intérêt qu'on a pour les sujets économiques.
Oui, alors je confirme. Alors ce que je vais vous dire, bien sûr, n'a aucune valeur scientifique. Hein, c'est simplement des retours d'expérience du terrain, de ce qu'on fait à la Caisse d'épargne dans la région, de ce qu'on peut faire dans des associations comme Finance et Pédagogie, hein, qui sont des associations à connotation pédagogique, justement, pour aider les gens à gérer leur budget, et de ce qu'on voit aussi dans l'écosystème de l'innovation avec tous ces jeunes qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale. Et c'est une aventure qui est très présente ici en région Rhône-Alpes. Alors c'est vrai qu'avant les élections, on a été, très questionnés par nos clients. Moi, j'ai eu beaucoup de questions personnelles, des questions où les gens n'osaient pas trop, justement, avouer qu'ils avaient un petit peu peur si jamais on sortait de l'euro. Comment est-ce que vous pouvez m'aider, monsieur Bruno, pour partir au Luxembourg, pour partir en Suisse, pour peut-être aller en Italie, pour peut-être aller ailleurs? Que vont devenir mes économies? On a eu beaucoup de questions à caractère, j'allais dire, anxiogène, parce que c'est vrai qu'il y avait des débats économiques, j'allais dire, au niveau national assez clivants et assez durs. Et ça, on le voit à toutes les élections, mais à cette élection-là, ça s'est vraiment focalisé sur le sujet de la monnaie. Si jamais on sort de l'euro, qu'est-ce qui va se passer? La deuxième chose qui m'interpelle dans ce sondage, c'est vrai que c'est les plus de 50 ans. Et je regardais un petit peu, j'en parlais avec mes collègues, effectivement, les plus de 50 ans nous questionnent beaucoup. Alors, normalement, si la vie a été un peu douce pour vous, à 50 ans, vous avez quelques économies. Donc, j'allais dire, c'est peut-être moins l'économie qui vous intéresse que le devenir de vos économies. Et c'est vrai que c'est une frange de population qui nous pose beaucoup de questions sur est-ce que le livret A va baisser, est-ce que les taux d'intérêt vont monter, est-ce que les placements boursiers sont intéressants, est-ce que l'immobilier va s'écrouler. On sent que c'est des gens qui ont un petit peu accumulé, on sent que c'est des gens qui sont dans, j'allais dire, un rapport à la vie qui est par moments un peu anxiogène, hein, puisqu'ils savent qu'ils vont partir à la retraite, mais que si tout se passe bien, ils vont vivre encore longtemps. Et c'est vrai qu'on a cette frange de population qui nous questionne beaucoup là-dessus. Après, moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est sur cette discrimination, j'allais dire, l'âge, mais surtout le diplôme. Et là, je crois que je sors de mon, de ma posture de banquier, hein, parce que ça, je pense que c'est un vrai sujet démocratique, c'est un vrai sujet, j'allais dire, pour les responsables politiques, pour les enseignants, pour nous tous citoyens. Il y a des gens qui se sentent absolument pas concernés par l'économie telle qu'on la présente. C'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est toujours un domaine d'experts, c'est un domaine sur lequel, de toute façon, on ne nous dit pas toute la vérité, on nous cache des choses, sur lesquelles ils n'ont absolument aucune prise, alors qu'en fait, l'économie, c'est leur quotidien, et ça devrait être pour cette, j'allais dire, frange de population, une préoccupation importante, parce que c'est elle qui est aussi dans les effets de la mondialisation, c'est elle qui est dans des territoires plus reculés. Donc ça, c'est important, et nous, je vois au niveau de la banque, on a un très très gros travail vis-à-vis de ces populations pour expliquer très concrètement, de façon très pragmatique, ce qui se passe, pour essayer de donner, j'allais dire, des clés de lecture à la compréhension un peu du monde. Après, on sent quand même qu'il y a une fracture entre... Alors, on a mis à 50 ans dans le sondage, mais on sent que le rapport des plus jeunes à l'économie est différent. J'en parlais à un de mes étudiants, ce n'est pas représentatif, c'est un étudiant du supérieur, mais il me disait, vous savez, pour moi, l'économie, c'est l'ancien monde, hein, c'est le monde à la papa, les grandes théories économiques, la macroéconomie, je crois que tout ça, c'est un petit peu dépassé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'entreprendre, c'est l'économie appliquée, c'est l'économie pragmatique, c'est l'économie qu'on me donne les clés pour essayer de mouvoir, j'allais dire, le plus efficacement possible. Donc, je pense qu'il y a des réponses, il y a aussi des questions qui sont posées aux enseignants de l'économie, il y a des questions qui sont posées à nos institutions. Le rapport à l'économie change beaucoup. J'ai un jeune qui me disait, par exemple, mais le taux d'intérêt, ça ne m'intéresse pas trop. Je ne sais même pas si je vais acheter une maison. Je ne sais même pas où je vais travailler demain. Il va peut-être falloir que je déménage tous les 3-4 ans. Acheter une maison, ce n'est vraiment pas dans mon projet. Alors les sociologues disent que les jeunes sont plus dans la valeur d'usage ou dans l'usage des choses que dans la propriété. On commence à le sentir un petit peu. On commence à le sentir un petit peu. Et en tout cas, ce rapport à l'économie est en train de changer. Et pour autant, on voit arriver au guichet de la Caisse d'épargne des artisans, des commerçants, des jeunes start-upers qui viennent en faisant, j'allais dire, des business plans de très grande qualité, qui ont bien compris ce que c'est que le revenu, ce que c'est que les charges, ce que c'est que les fonds propres, ce que c'est que l'autofinancement. Bref, une économie beaucoup plus appliquée, une économie de leur quotidien. Ça, je crois que c'est très important et c'est un peu l'enjeu aussi de nos conseillers d'à la fois avoir une connaissance économique, une lecture macroéconomique des choses, mais aussi d'être capable dans le rôle de conseil vis-à-vis de la clientèle, de décrypter, de leur dire, voilà les clés, voilà comment vous pouvez vous servir de tout ça pour entreprendre. Je fais une parenthèse sur l'acte d'entreprendre, parce qu'on a toujours l'impression que c'est réservé à des jeunes qui viennent de bonnes familles, qui ont fait des études. Nous, je le vois, on a beaucoup, beaucoup de mal, et c'est au niveau de la profession bancaire, et c'est au niveau de, je parle de la région Rhône-Alpes, on a beaucoup, beaucoup de mal à retenir les jeunes dans la banque de détail. Ils viennent et assez souvent, ils partent assez vite. Ils partent assez vite parce que, non pas pour partir chez un concurrent, ce serait simple, parce qu'il suffirait de voir ce que propose le concurrent pour essayer de les retenir, mais ils partent ailleurs. Ils vont entreprendre, ils se disent « je suis jeune ». J'ai le temps, je veux des expériences, je veux faire des expériences. Et ça, c'est quelque chose qui, nous, dans la profession bancaire, nous interpelle beaucoup parce que la profession est en solde net de départ. Alors, est-ce que c'est le rapport à l'argent? Est-ce que c'est le rapport à l'institution? Est-ce que c'est dur, la banque de détail, aujourd'hui? Est-ce que c'est tout ça? Est-ce que c'est la peur du numérique, la peur des robots, la peur de l'intelligence artificielle qui va arriver? Est-ce que c'est tout ça? Mais en tout cas, on se rend compte qu'il y a un rapport différent à l'institution, un rapport différent aux institutions, et donc un rapport différent, j'allais dire, à l'économie et à la façon de vivre l'économie au quotidien. Ça, je crois que c'est très important, et c'est un défi pour nous de justement continuer à faire de la pédagogie en économie, mais que cette pédagogie soit comprise, pragmatique et adaptée au sens de la vie que les gens veulent prendre.
Merci Didier Bruno. On a déjà là un certain nombre de pistes sur les interrogations qu'on peut avoir en termes de niveau de vie et de mode de vie dans les analyses qui ont été faites. Et en effet, le coût des services bancaires existe dans notre niveau de vie. Mais on va voir que peut-être beaucoup plus déterminant dans l'évolution du niveau de vie, il y a le coût du logement. Et ça va être la suite du sondage. Vous voyez qu'il y avait une question qui avait été posée, ce qu'il faudrait faire pour faciliter, en tout cas, l'accès au logement dans notre société, ce qui est une des manières certainement d'améliorer le niveau de vie la manière la plus significative. Et quand vous regardez, il y a deux voies qui se dégagent, c'est assez intéressant dans ces réponses. Il y a ceux qui insistent sur il faudrait assouplir les contraintes réglementaires, soit du côté des propriétaires, soit du côté des promoteurs, de ceux qui vont construire, et au total ça fait 47%. Et de l'autre côté, il y a les réponses de ceux qui disent qu'il faut d'abord favoriser le logement social, il faut favoriser l'accès à la propriété dans le logement social. Et quand on regarde, c'est à peu près à égalité. Ces deux approches sont égales et évidemment, il y a des différences. L'assouplissement, par exemple, du côté réglementaire, ici que j'évoquais, c'est plutôt les CSP+, qui sont là, mais c'est aussi les moins de 50 ans. On voit qu'il y a, en termes d'âge et de catégorie sociale, il y a des différences. Et donc ça, je pense que c'est un des vrais sujets extrêmement importants. C'est ici, est-ce que l'accès au logement s'adapte à des situations qui ont changé, comme on venait de l'évoquer? Et la deuxième chose sur les problèmes ici de niveau de vie et de mode de vie, c'est la consommation. Et j'avais souhaité qu'on pose des questions sur la consommation avec le commerce en ligne. Et donc, on a ici des réponses qui, d'abord, nous disent que il y a deux tiers des Français qui font des achats en ligne. Je pense qu'en fait, la France du Bon Coin doit être représentée ici. Je pense que c'est un véritable changement, une véritable mutation. On voit qu'il y a 41% au moins des Français qui font une fois par mois un achat par le commerce en ligne et que, évidemment, c'est très présent, encore une fois, dans les CSP+, et dans les moins de 35 ans. Donc on voit là aussi un peu les populations qui initient un peu ces changements de mode de vie. Alors, est-ce que c'est si avantageux que ça, ce nouveau mode de consommation que nous avons tous tendance à pratiquer? On voit qu'en fait, dans les motivations qui vous sont données, et on va voir les chiffres apparaître, le fait que ça soit beaucoup plus pratique, c'est quand même à peu près 52% quand on les réunit qui ont cette approche-là, et ceux qui regardent en disant c'est plutôt moins cher, 36%, je crois que c'est les deux motivations. les plus évidentes. Ce n'est pas forcément les mêmes populations qui regardent le côté pratique ou le côté prix, mais ça, je pense que c'est évident pour tout le monde, que ce sont ces éléments qui nous amènent ici à choisir le commerce en ligne. Mais il y a aussi une conscience, et c'est le slide suivant, qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit aussi les inconvénients. Quand on interroge les gens sur les inconvénients, vous voyez les chiffres, on voit bien que si je réunis ceux qui pensent qu'il y a un risque de fermeture du commerce traditionnel, une perte de contact direct, ça fait 61% des personnes interrogées qui pensent que c'est le risque. Et puis, toujours un peu la question de la sécurité qui ressort là sur la sécurité des paiements, l'utilisation des données personnelles, 27%. Donc, on en voit les avantages, on en voit les inconvénients. Je crois qu'il y a une véritable question. Le logement et les modes de consommation sont au centre de notre vie, peut-être particulièrement d'ailleurs dans les métropoles. C'est un élément qui peut améliorer à la fois le pouvoir d'achat, si on a des bonnes politiques, et puis qui peut aussi nous permettre d'aller vers des modes de vie qui nous permettront peut-être d'interagir plus efficacement entre nous. Et j'ai évidemment envie de poser la question à David Kimmelfeld, puisque au fait vous êtes là dans ce monde où il y a peut-être les changements les plus visibles de notre vie pour l'ensemble de ceux qui sont avec nous aujourd'hui.
Donc, vous l'avez vu tout à l'heure dans le micro-trottoir, à la première question, qu'est-ce que c'est la conséquence de la crise de 2008, la première réponse, je crois, qui a été faite, c'est le logement, la difficulté à se loger. C'est donc bien sûr sur cette métropole une préoccupation extrêmement importante. Et je voudrais peut-être associer à mes commentaires, puisqu'il est là au premier rang, et la ville-centre est importante dans cette politique de logement, le maire de Lyon, qui est ici, Georges Képénékian, au premier rang, pour vous dire que, bien évidemment, les réflexions qui sont faites dans le sondage sur, par exemple, développer en priorité la construction de logements sociaux dans les zones de plein emploi, 24%, c'est la préoccupation. On peut le lire différemment, ça peut être aussi comment est-ce qu'on rééquilibre les territoires, comment est-ce qu'on fait de la mixité sociale à l'échelle du métropole. Et c'est ce qui nous anime ici. On produit dans cette métropole tous les ans environ 9000 logements, dont la moitié de logements sociaux. Et le travail qui est fait ici, c'est de rééquilibrer les territoires, c'est-à-dire de faire en sorte que, bien évidemment, là où il y a une forte concentration de logements sociaux. Il y a des communes dans notre métropole où on est à 70% de logements sociaux, et puis d'autres communes ou d'autres quartiers où le logement social est beaucoup plus modeste. C'est de rééquilibrer, et bien évidemment l'ensemble des dispositifs qui nous permettent de faciliter ce rééquilibrage dans les territoires est le bienvenu pour nous. Alors on a un débat, vous l'avez dit aujourd'hui, puisqu'il est, c'est un débat d'actualité, les journées de l'économie, c'est aussi pour parler de l'actualité, c'est ce qu'on appelle l'article 52, qui est en discussion en ce moment au Parlement, où il y a une forte mobilisation du monde du logement, mais aussi des collectivités, pour dire attention, il faut que cet article 52 s'assouplisse pour nous permettre de ne pas être dans la contrainte. Il est nécessaire que les organismes HLM se réforment, mais il ne faut pas le faire d'une manière violente, il faut le faire dans la durée. Il faut continuer, il ne faut pas gripper la machine, il faut continuer à produire du logement. C'est indispensable sur les métropoles pour pouvoir accueillir encore plus de population, puisque c'est une métropole attractive, c'est une métropole qui accueille de plus en plus de monde, et donc il faut des conditions de logement. Mais le logement, et c'est indiqué là-dessus, c'est aussi un parcours. Et la deuxième préoccupation, c'est 24% pour permettre aux locataires de logements sociaux d'acheter leur logement. 24%, donc c'est ce qu'on appelle le parcours finalement de celles et ceux qui sont dans du logement et qui souhaitent en devenir propriétaires. C'est aussi une action forte menée sur la métropole. C'est environ un peu plus de 1000 logements par an qui sont aujourd'hui vendus à leurs occupants, en quelque sorte, pour qu'ils deviennent propriétaires. Il faut faire attention ensuite à ce que les copropriétés puissent se développer dans de bonnes conditions. Et puis la politique du logement, elle n'est pas, en suspension. On ne fait pas du logement uniquement là où il y a du plein emploi, il faut derrière de la mobilité, c'était une des questions. Ça veut dire que derrière, quand on fait du logement, il faut s'assurer que l'on ait les lignes fortes de transport qui vont avec. Et puis il faut s'assurer aussi qu'on ait, ça fera peut-être le lien avec le deuxième sondage, des activités et notamment du commerce de proximité, car tout ne se règle pas à travers les achats en ligne, mais on aura peut-être l'occasion de l'indiquer tout à l'heure. En tout cas, la préoccupation à travers le sondage du logement est une préoccupation partagée par la métropole. C'est un élément essentiel d'une métropole qui soit équilibrée.
sur le commerce de proximité, je pense que il y a une conscience, j'ai l'impression, dans le sujet quand même, de, c'est très très bien le commerce en ligne, mais en même temps que ce commerce de proximité, on y tient.
Et en fait, ça se traduit dans les faits. Il se trouve qu'on a ici des éléments, on va dire, un peu objectifs, puisqu'on vient de sortir la 10e enquête ménage qui, finalement, mesure, c'est un observatoire du commerce, et qui dit exactement ça. C'est-à-dire que c'est marrant parce que les gens ont la préoccupation, et dans les faits, ils répondent à leurs préoccupations. Alors, je ne sais pas si c'est de l'inconscient, mais en tout cas, sur cette 10e enquête ménage, qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'abord que, effectivement, les achats en ligne sur la métropole, c'est un peu plus de 10% des achats non alimentaires. Donc c'est important, c'est en fait le premier pôle commercial devant la Part-Dieu, devant le centre commercial de la Confluence, c'est extrêmement important. Et en même temps, dans le même temps, le commerce de proximité, pour la première fois, n'a pas perdu de part de marché sur la métropole. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a un rééquilibrage qui se fait, et qui est un rééquilibrage que font les consommateurs. Ils achètent en même temps en ligne et en même temps ils favorisent le commerce de proximité par des mécanismes qu'il faudrait pouvoir décortiquer. Mais c'est peut-être qu'on a changé finalement de la voiture où on allait à l'hypermarché, maintenant du smartphone, on va peut-être au commerce de proximité. En tout cas, c'est les chiffres qui l'attestent. Donc c'est plutôt rassurant pour notre commerce de proximité, parce que ce commerce de proximité, il est extrêmement important pour nos quartiers, pour nos villes. Il répond d'abord à un équilibre social et il répond aussi, je l'expliquais, je crois, hier à la métropole, que notamment sur le vieillissement de la population, si on veut que nos seniors restent en ville, et c'est leur souhait, il ne faut pas simplement qu'ils aient du logement, c'est la question du logement et du logement adapté, mais il faut aussi une ville qui soit organisée pour qu'ils puissent se déplacer en toute sécurité. Et puis quand ils se déplacent en toute sécurité, c'est certes c'est pour aller voir le voisin, la voisine, mais c'est aussi pour aller faire leurs courses, et pour ça il faut du commerce de proximité. Ensuite, le numérique et les achats en ligne, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus vaste, Didier l'expliquait. On est aussi sur une mutation extrêmement forte des métiers, on est aussi sur des services numériques, on parle notamment en matière de médecine, et l'arrivée du numérique en matière de médecine de proximité vient aussi perturber nos modèles, et ça sera, je pense, un certain nombre de débats dans nos GECO.
Alors, on va passer maintenant à la troisième partie du sondage, c'est la plus compliquée, celle sur la situation économique, en démarrant par l'inflation, qui est traditionnellement surestimée par les Français. Alors, je ne vais pas encore commenter la diapo, je vais expliquer brièvement pourquoi les Français tendent à surestimer l'inflation. C'est parce que quand on regarde les prix, on voit beaucoup plus souvent des prix qui peuvent augmenter facilement et retient plus ceux qui augmentent que ceux qui baissent, comme l'alimentation, comme le prix de l'essence. En revanche, des prix qui baissent, comme par exemple ceux des ordinateurs, soit parce que réellement ils coûtent moins cher, soit parce que la qualité augmente pour le même prix, ceux-là on les achète que tous les 3, 4, 5 ans. Et donc on les perçoit moins. C'est pour ça que traditionnellement les Français surestiment l'inflation. Alors on va voir maintenant le résultat du sondage. Et cette fois-ci, moins de Français surestiment l'inflation. Ils sont 24% néanmoins, c'est la barre rouge verticale. Et l'année dernière, au total, ils étaient 56% à l'avoir surestimé. Et 30%, c'est la barre orange, l'évaluent à peu près bien entre 1 à 2%, alors que l'année dernière, ils n'étaient que 12% à l'évaluer. Donc on va avoir un peu plus de précision maintenant. Tout ça ne semble globalement pas avoir trop changé. Autant de gens considèrent qu'elle a augmenté que l'année dernière qu'auparavant. Mais quand on regarde les chiffres précis, on va aller à l'information suivante, vous voyez que l'inflation en 2017, du moins en septembre, au moment où elle est connue et qu'est fait le sondage, est de 1,3%. C'est pour ça que vous avez la sorte de petite étoile dans la partie rouge, orange. Et on voit que là, c'est les 30% qui ont bien visé. Ceux qui la surestiment sont moins nombreux qu'auparavant, mais il y a un peu un phénomène d'inertie. Car vous voyez que ce qui augmente, c'est ceux qui pensent qu'elle est inférieure à 1%, en orange pâle. Et ça, c'était le chiffre de l'année dernière, à la même époque, avec 0,4. On voit donc que dans les comportements, il y a à la fois une meilleure perception, mais quand même une inertie qui est tirée par le passé. On va passer maintenant, on a vu les prix, on va passer à la croissance. Alors celle-ci aussi, il faut la faire progressivement. Et là, on voit un changement, il y a un regain d'optimisme. La diapo dit des Français moins pessimistes à l'égard de la situation économique de la France comme de celle de l'Europe. Et en fait, on voit que il y a 26% des Français qui considèrent qu'elle va s'améliorer encore en 2018 par rapport à 2017. Et ça, c'est en progression par rapport à l'année dernière, forte progression, alors que l'année dernière, on prévoyait une croissance moins forte qu'on l'a maintenant. Donc on peut dire à la fois, il y a 26% des Français qui considèrent qu'elle va encore s'améliorer et 37% qui considèrent que la conjoncture économique va rester similaire à celle de 2017, c'est-à-dire très bonne, puisqu'on prévoit à peu près 1,8% de croissance. Et ceci, vous avez la description des catégories socioprofessionnelles qui le voient. Le même sentiment concerne maintenant, on va le voir sur la diapo, l'Europe, avec des chiffres un petit peu moins élevés, mais néanmoins en hausse du côté positif. Et ça, on va le voir sur la diapo encore suivante, ça tranche avec le passé. L'année 2016 voit un doublement des optimistes en bleu qui passe de 13 à 26% sur la croissance française. Et on retrouve un niveau extrêmement élevé qu'on n'avait plus eu depuis 2013. Pour l'Europe, le sondage existe depuis moins longtemps, mais il montre aussi cette appréciation. Il y a un regain d'optimisme en général avec, je le répète, un quart des Français qui est un chiffre qui double par rapport à celui de 2016 et qui est le maximum depuis 2013. On va passer maintenant à la diapo suivante, ce qui va permettre de faire les commentaires.
Oui, on a l'habitude de dire que les Français sont pessimistes, et là, c'est assez amusant, dans le sondage, il y aurait un effet positif cette année, je ne sais pas d'où il peut venir, et justement, je serais tenté de demander à Annabelle, André, Laurent, comment elle interprète le fait que les Français sont plus pessimistes à la fois sur la situation de la France et sur la situation de l'Europe. Oui, moins pessimiste, pardon.
Eh bien, écoutez, je pense qu'il y a déjà deux explications. La première, c'est que globalement, l'économie est cyclique. On a eu la crise 2008-2010 et il y a eu une reprise économique presque naturelle qui s'est faite après cette période. La deuxième raison, c'est que de nombreux pays européens ont pris des dispositions pour réformer en profondeur leur pays, des réformes structurelles avec la diminution des charges, avec le désendettement de leur pays, qui a permis à ces pays européens aussi de profiter de cette relance et de recréer une certaine croissance. La France a été un petit peu, j'allais dire, en retard par rapport à d'autres pays. Les réformes qui ont été prises aussi récemment, en termes de fiscalité, entre autres sur les entreprises, ont un impact extrêmement positif aussi et redonnent confiance aux investisseurs. Ça recrée une dynamique et on sait que lorsque les Français sont optimistes, il y a aussi la communication médiatique. Lorsque les médias sont plus optimistes, ont confiance aussi dans le développement économique, ils communiquent davantage et différemment, ce qui redonne aussi confiance aux Français. Lorsque les Français sont optimistes, on sait qu'ils consomment davantage et c'est aussi, ça recrée un cercle vertueux qui fait que s'ils consomment davantage, on repart aussi dans la croissance. Il y a, voilà, vous l'avez vu, plusieurs raisons à cette confiance, à cet optimisme. Attention cependant, parce que cette confiance reste fragile, elle est toute nouvelle. Il faut derrière faire les réformes qui vont permettre de consolider cette confiance et surtout de consolider cette croissance. Et c'est indispensable, bien évidemment, pour continuer de façon positive.
Alors, il y a un lien, effectivement, entre la perception meilleure en France et en Europe. On l'a vu tout à l'heure. Vous avez évoqué les mots de réforme, vous avez évoqué les mots de confiance, et c'est effectivement ce que l'on va retrouver ici. Vous avez devant vous la même question à peu près qui a été posée l'année dernière sur des éléments dont on considère que ce sont des acquis et qu'il n'y aura pas de problème, et d'autres qui peuvent être remis en cause, qui peuvent être discutés. Et il y a une très forte progression, vous le voyez en bas, de l'acquis sur l'euro. Il représente 73%. Vous vous rappelez que l'année dernière, on avait fait ça dans la foulée du Brexit, dans un contexte de campagne électorale qui avait un peu brouillé les cartes et où il y avait une chute. Et là, il y a une remontée très forte qui fait plus que compenser. 73%, c'est d'ailleurs à peu près le résultat du sondage qui est fait auprès des Français régulièrement en soutien à l'euro et qui lui aussi a augmenté, peut-être pour partie, dans un deuxième temps en réaction au Brexit. Mais c'est aussi le Parlement européen qui progresse fortement et qui est considéré comme un acquis à travers le Parlement européen, ce sont les institutions européennes. On peut critiquer les institutions au niveau international, européen, français, mais elles sont considérées comme des acquis. Dans les autres sujets, en revanche, et ça n'est pas étonnant avec ce qui s'est passé avec le Brexit, avec les questions qu'il peut y avoir sur Schengen, les éléments paraissent plus discutables. C'est les parties orange qui sont plus importantes et la PAC, la politique agricole commune, qui a été citée par le président de la République dans son discours, est un élément dont on perçoit qu'il peut être rediscuté. Qu'est-ce que les Français attendent de l'Europe ? On a une série de possibilités qui sont ouvertes, qui vont de plus d'intégration européenne, qui signifie plus de décisions au niveau de l'Europe et moins au niveau du pays. Et là, les résultats confortent et renforcent même ceux de l'année dernière. On a été plus précis et vous voyez, le bleu est écrasant. Il est bien sûr, il concerne la défense. Sylvie sera bien placée pour en parler. Il y aura aussi des éléments qui concernent les immigrés et les réfugiés. Mais je voudrais insister sur le bas du tableau, qui est quand même très positif. Deux tiers des Français jusqu'à trois quarts des Français sont pour plus d'intégration européenne, que ce soit au niveau en démarrant par le bas, des politiques économiques et budgétaires, que ce soit au niveau des investissements, notamment en termes d'infrastructures, et ça fait penser au plan Juncker, et en termes de coordination fiscale. Et ça, c'est un résultat qui est assez frappant et qui montre que on attend beaucoup de l'Europe.
Oui, alors ce sont des réponses intéressantes, parce que d'un côté, on a l'impression en effet que les Français attendent beaucoup à la fois de la coopération, de la coordination, de l'intégration, ce qui n'est pas la même chose. Mais en même temps, quand on voyait le slide précédent, on voyait qu'il y avait une espèce de polarité. Il y avait des choses qui pouvaient être remises en cause et d'autres qui étaient véritablement bien installées, entre autres l'euro. Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvie Goulard ?
Bon, d'abord, je crois vraiment que c'est le chiffre qui est le plus frappant. Or, si vous regardez ce que nous avons vécu depuis 10 ans, une crise financière qui est venue des États-Unis, puis une crise interne à la zone euro, quand on voit les titres des journaux, le temps consacré à essayer, on disait même parfois, de sauver l'euro, ce chiffre est vraiment tout à fait remarquable. Et je crois qu'il relève aussi d'un bon sens extrêmement profond qu'il y a dans la population, que moi j'ai toujours senti sur deux plans. D'abord, si on regarde ce qu'ont fait les gouvernements, indépendamment des commentaires politiques, etc., pendant toutes ces années, la tentation aurait pu être là de défaire l'euro. Or, dans tous les pays, que ce soit les pays du Nord, avec leur volonté de maintenir les règles et la discipline, que ce soit dans les pays du Sud, qui ont probablement eu à faire des efforts comme on en avait rarement fait pour rester dans la zone euro. Eh bien, dans tous ces pays, aucun gouvernement n'a pris le risque de sortir de ce projet, de remettre en cause à la fois sa dimension politique et son importance, je dirais, dans la mondialisation telle qu'elle se déroule. L'autre chose qui est quand même très frappante, c'est qu'il faut peut-être faire la différence entre le fait d'être attaché à des politiques ou d'être attaché à une coopération et la volonté d'en modifier les termes, d'en changer les modalités. Je pense qu'il faut éviter de penser l'Union européenne comme quelque chose de figé, puisque nous sommes dans un monde qui change énormément, et parce qu'il faut oser dire aussi que le coût social ou un certain nombre de problèmes que nous affrontons collectivement en Europe ne sont pas correctement réglés. Et les réponses le reflètent assez bien. Il est évident que la politique agricole commune, qui a été créée dans les années 50, le début des années 60, dans une Europe en reconstruction après la Seconde Guerre mondiale et dans laquelle vous aviez des pays où il n'y avait pas de suffisance alimentaire, est aujourd'hui d'entrer dans une phase qui est complètement différente. Nous avons à défendre des productions liées à des territoires, des savoir-faire. Nous avons aussi à voir comment nous arriverons à nourrir 9 milliards d'individus d'ici quelques décennies sur la planète. Il y a une revendication de qualité de l'alimentation qui n'était peut-être pas aussi présente quand les gens n'avaient tout simplement pas à manger. Donc je crois que le fait, par exemple, que la PAC ne soit pas un tabou, je crois que c'est une très bonne chose, qui ne signifie pas que l'agriculture ne soit pas un secteur important. De même, sur l'élargissement de l'Union européenne, l'arrivée de nouveaux pays, il est évident qu'un certain nombre d'erreurs qui ont pu être commises par le passé dans la manière dont on a fait entrer certains pays ou des processus qui ont peut-être pas été suffisamment clairvoyants sur certaines conséquences ont incité les Européens à être plus prudents. Je dirais que là-dessus, sur cet ensemble de réponses, je dirais qu'il y a deux dangers. Le premier, c'est quand même aussi d'être favorable à des choses sans être prêt à en payer le prix. Ça veut dire quoi qu'on est prêt à de la coopération en matière de défense ? Ou ça veut dire quoi qu'on est prêt à plus de coordination ? Il ne faut pas toujours penser que c'est notre modèle qui va s'imposer aux autres en Europe. Donc ça veut dire aussi rentrer dans une relation exigeante. Vous avez des pays qui sont neutres, vous avez l'Allemagne qui a le passé qu'elle a. Pour faire la défense européenne, il y a un énorme travail à faire. Et ça ne se fera pas sur un modèle, d'ailleurs, ni le modèle français, ni celui de personne d'autre. À l'heure actuelle aussi, l'un des pays qui a l'outil de défense le plus important est le Royaume-Uni, qui est plutôt en train de s'éloigner de nous. Est-ce qu'on arrivera à maintenir une coopération ? Donc, je crois qu'il faut à la fois voir ce que ces réponses ont de positif. Je crois que les Français ont raison de penser que certains sujets seront mieux traités si nous unissons nos forces en Europe. Après, il ne faut pas, et moi je ne le fais jamais devant le grand public, faire en sorte que tout est facile. Et d'ailleurs, l'Europe de la défense, notamment en raison de l'échec de la communauté de défense en 1954, n'a pas suffisamment progressé par rapport au danger. Le deuxième chiffre que je retiens, c'est celui qui concerne Schengen et la libre circulation. Là aussi, je crois que nous devons avoir une vision lucide de ce que nous avons fait en Europe. Nous avons aboli les frontières entre nous, ce qui est une bonne chose parce que ça facilite les échanges, parce que ça permet aux étudiants, aux entreprises de logistique, aux hommes d'affaires, aux déménageurs de passer les frontières facilement. Mais d'un autre côté, nous avons été très peu clairvoyants sur les conséquences qu'aurait l'absence de contrôle aux frontières extérieures. Et je me rappelle que quand je travaillais avec Romano Prodi au début des années 2000, peut-être parce qu'il était italien, peut-être parce que l'analyse était de qualité, il y avait cette idée qu'on aurait besoin d'un corps de garde-côtes européen, sinon un jour on aurait des problèmes. Et on voit bien que nos gouvernements ont un peu de mal à anticiper en matière européenne. Ils sont en arrière des événements. Ce dont nous aurions besoin en ce moment, c'est véritablement d'une accélération, que d'ailleurs le président de la République propose, d'un certain nombre de coopérations, parce que pendant trop longtemps, nous n'avons rien fait et nous en payons le prix aujourd'hui. Mon expérience au Parlement européen, et je suis ravie de voir que cette institution, qui est souvent mal comprise et considérée comme éloignée des gens, acquiert petit à petit, péniblement, au fil des années, une certaine place dans le cœur des Européens, puisque, je vous prends un exemple, pendant la crise, le Parlement européen avait le premier... vu le problème entre la dette souveraine, la dette des États, et la situation des banques. Nous avons émis dès 2010, un groupe de députés, l'idée qu'il fallait s'occuper beaucoup plus dans la zone euro de la situation des banques, et qu'il y avait un lien entre les banques et le danger d'avoir un État qui fait faillite. Eh bien, il a fallu des années au ministre de l'économie pour se décider à aborder cette question, et depuis, des progrès réels ont été faits dans ce domaine-là. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait en Europe encore et toujours des gens qui pensent européens, qui soient dans l'anticipation, qui ne soient pas seulement en quelque sorte les représentants des intérêts d'une partie du tout, mais qui s'expriment au nom du tout.
Alors, cet après-midi, en fait, Sylvie Goulard reprendra ce sujet, dialoguera avec le gouverneur de la Banque de France, Patrick Artus, Jean Pisani-Ferry, sur une conférence qui se passe ici à 17h, et qui a un titre un peu provoque, « Fallait-il faire l'euro ?» Le sondage a donné une indication déjà, mais ça vaudra la peine d'en discuter. En fait, on attend beaucoup de l'Europe, mais l'Europe attend aussi des choses de la France, et ça va être la dernière diapo qu'on va voir maintenant, car si on veut que les autres nous soutiennent, il faut aussi que nous réformions. Et là, on voit qu'il y a déjà eu des réformes, et que l'appétence pour ces réformes ne se réduit pas. Il y a une nette majorité, 60%, pour alléger encore les normes réglementaires, notamment en termes de droit du travail. En revanche, lorsqu'on évoque des exemples de surcroît de libéralisation, ceux qui sont donnés ici font peut-être réfléchir et donnent juste une courte majorité, 52%, si on passe les chiffres totalisés maintenant sur la diapo, s'il vous plaît, et qui permettent à ce moment-là de voir que la privatisation du secteur public, par exemple, peut faire peur à certaines personnes.
Je vous propose de réagir peut-être en une phrase très rapidement chacun, parce que ce dernier résultat peut nous interroger, il est extrêmement intéressant. Peut-être en premier, Annabelle André-Laurent.
Oui, alors effectivement, c'est le point d'équilibre, j'allais dire, entre le libéralisme et le protectionnisme. Pompidou disait, il faut arrêter d'emmerder les Français. Excusez-moi, je ne fais que citer. Alors effectivement, on est pour l'ouverture, le libéralisme, la suppression des frontières, mais en même temps, on a peur de la concurrence et on veut se protéger. C'est un peu le paradoxe français. Quoi qu'il en soit, il faut trouver le bon équilibre, effectivement, entre le libéralisme et le protectionnisme. Lorsqu'on parle de mondialisation, se resserrer ou se recentrer sur soi-même serait une vraie erreur. Donc le bon curseur est à positionner, à trouver. Et un dernier point pour les normes, les réformes. Je pense que la première réforme à faire pour vraiment soutenir et libérer notre économie, c'est réformer l'État, se désendetter et que l'État prenne un petit peu aussi l'esprit entreprise et se réforme en profondeur et rapidement. C'est ce que font nos entreprises.
Merci. David Kimmelfeld, sur ces questions de normes, réglementation et en même temps libéralisation.
Peut-être un propos un peu décalé, vous m'en excuserez, mais moi je trouve que c'est assez représentatif de ce qu'on appelle la schizophrénie collective, dont on a tous, à un moment donné, à gérer nos propres contradictions. Et là, on est exactement là-dedans. Moi, je voudrais l'illustrer par deux exemples. Et on l'a vu tout à l'heure, encore une fois, par le micro-trottoir. Un certain nombre de personnes disent qu'il y a un sujet sur la qualité de l'air. Et nous, on voit bien ici que la qualité de l'air, c'est un sujet extrêmement important. Mais quand il faut changer nos habitudes, ben, c'est toujours extrêmement difficile. Donc, on a conscience du problème et on a des difficultés à mettre en place les différents moyens. Je donnerai une autre question plus vaste, la question des migrants aujourd'hui. Tout le monde a conscience ici que la question des migrants est une question essentielle, qu'on a des flux extrêmement importants, que les gens ne vont pas repartir chez eux d'un coup de baguette magique, mais on a quand même des difficultés à les accueillir sur nos territoires. Et donc on a cette schizophrénie. Les élus, n'en parlons pas, sont de grands schizophrènes. Et comme ce sont des grands schizophrènes, c'est eux qui connaissent mieux la maladie, c'est eux qui sont peut-être capables, en tout cas, d'apporter un certain nombre de conditions pour gérer cette hystérie, cette schizophrénie collective. Pas cette hystérie, mais cette schizophrénie collective. Et c'est faire de la pédagogie, c'est aussi être concret. Par exemple, sur la qualité de l'air, bien ma foi, si on veut que les gens changent leurs habitudes, il faut amener des solutions en matière de mobilité. C'est comme ça qu'on arrive à gérer cette question-là. Et ce qui me frappe, moi, là-dedans, c'est surtout, oui, à libérer un certain nombre de contraintes. Il faut libérer un certain nombre de contraintes auprès de nos entreprises. Je crois que les choses sont plutôt... moi, j'ai le sentiment qu'elles sont plutôt bien engagées aujourd'hui avec un certain nombre de réformes que propose le président de la République. Et en même temps, ils sont attentifs quand ils disent la privatisation des services publics. C'est surtout, derrière, je dis plutôt, est-ce qu'on va continuer à avoir des services publics et des services au public dans nos différents quartiers, dans nos différentes villes. C'est deux choses extrêmement différentes. On peut avoir un certain nombre de services publics qui sont privatisés. Si la qualité est au rendez-vous et si les services existent encore dans nos quartiers, ça ne sera plus un problème, à mon avis, pour nos concitoyens.
Merci. Didier Bruno, est-ce qu'il y aurait de la schizophrénie du côté des banquiers aussi ?
De la schizophrénie, je ne sais pas. Mais vous voyez, pour rebondir sur ce que disait David, sur ce que vous avez montré dans votre sondage sur le commerce en ligne et sur la proximité, on pourrait dire les gens sont schizophrènes, ils veulent du commerce en ligne et de la proximité. Ben oui, mais ils ont raison de vouloir les deux. Ils ont besoin du commerce en ligne pour aller très vite, parce que la fluidité, un parcours client exemplaire, c'est très important. On a un rapport au temps qui a beaucoup changé. Et en même temps, ils ont besoin aussi d'une relation personnelle et d'avoir un conseil. Et nous, j'allais dire, dans notre métier, hein, tout l'enjeu qu'on va devoir affronter, c'est d'apporter à nos clients le meilleur du numérique et d'apporter le meilleur du physique. Parce qu'on a envie, hein, de passer du numérique au physique, du physique au numérique. Donc c'est vrai que c'est peut-être une forme de schizophrénie, mais en tout cas, je crois que c'est une dimension à prendre en compte. Après, sur la libéralisation, je ne reviens pas sur ce qu'a dit David, bien sûr, mais je me place sur un autre plan. Qu'est-ce qu'on constate dans nos entreprises ? Je vous en parlais un petit peu tout à l'heure sur les jeunes générations. Ils ont besoin d'oxygène. Ils ont besoin d'oxygène. Ils ont envie d'organiser leur temps de travail. Ils ont envie d'être en télétravail. Ils ont envie un jour d'arriver sans cravate, un jour d'arriver avec des cravates, des choses comme ça. Ils ont envie d'oxygène et en même temps, ils ont envie de protection. Je pense que c'est pas du tout, c'est pas du tout antinomique. Hein, à nous de mettre le bon niveau de protection de telle façon que derrière, l'engagement, l'implication, la créativité puissent s'exprimer. Je pense que nos organisations sont en train d'évoluer, mais culturellement, en tout cas, pour les dirigeants, c'est un choc, mais c'est un choc qui est salutaire, parce que si on ne le fait pas, on n'arrivera plus demain à recruter, etc., etc. Donc, ce qu'on peut prendre pour schizophrénique, c'est aussi cette complexité de l'individu qui évolue avec, des envies assez différentes. Et ça, je crois que c'est très important de ne plus voir l'individu, notamment au travail, d'une seule façon, avec une vision très militaire de l'entreprise, une vision très particulière de la hiérarchie. C'est notre enjeu aussi d'ouvrir d'autres formes de vécu collectif, d'autres formes de rapport à la hiérarchie, d'autres formes de délégation, d'autres formes de contrôle. Ça, je crois que c'est très important.
Sylvie Goulard, une phrase pour conclure.
Écoutez, moi, j'ai le sentiment que les Français et les Européens ont la chance aussi de vivre dans un ordre de droit. Quand on dit qu'il y a des normes, on peut dire, et vous avez raison madame, il ne faut pas qu'il y en ait trop, il ne faut pas emmerder les gens, ce n'est pas la question. Mais je crois que, quelle est l'alternative ? L'alternative, sinon, c'est la loi de la jungle. Et que l'une des grandes questions qui est devant nous en tant qu'Européens, c'est de continuer à porter dans un monde où vous avez des gens qui érigent le principe d'égoïsme. America first, ou la puissance de la Chine d'abord, etc. Qu'on essaye, nous, de continuer à défendre l'idée que c'est pas plus mal qu'il y ait des règles. Et comme vous le disiez très justement, il y a toujours un équilibre à trouver pour des règles. Il n'y a pas une règle, il n'y a pas la vérité et l'erreur. Et c'est pour ça que le débat démocratique doit aboutir à la fixation des règles. Mais franchement, peut-être que je suis en train de vieillir, mais comme député européen, j'ai beaucoup vécu des débats dans lesquels à la fois les gens disent « Oh, il y a trop de normes, vous nous cassez les pieds ». Mais attention, s'il y a des œufs qui sont vendus et qui ne sont pas de bonne qualité, ça, c'est pas acceptable. Et puis, qu'est-ce que vous faites contre les perturbateurs endocriniens ? Et pourquoi vous laissez des produits qui pourraient apporter atteinte à la santé, à l'environnement, circuler ? Donc, je crois que d'une certaine manière, il faut que nous assumions, en adultes, que les normes, c'est une contrainte, mais que c'est aussi un moyen de faire en sorte qu'un certain nombre d'objectifs qui ressortaient très bien de votre petit micro-trottoir, de qualité de vie, de qualité de l'air, de mobilité, puissent être remplis. Donc je crois que ce qui est bien, c'est quand on a des adultes dans la salle et qu'on a des gens qui savent que si on veut avoir un certain degré de qualité et d'exigence, il y a des contraintes à assumer aussi.
Merci beaucoup. Et d'ailleurs, pour votre santé, vous allez courir pendant 3 jours. Donc, je pense qu'on va y contribuer. Envoyez vos questions par SMS. Quand vous me croisez, n'hésitez pas à me faire des remarques. Au bout de 10 ans, vous avez peut-être des choses sur le cœur. Il faut me le dire. Continuez.